Boaz Bismuth est en ligne avec nous à présent. Bonsoir Boaz.
Bonsoir Bernard.
Boaz, vous êtes député Likoud, proche de Benjamin Netanyahou. Vous avez été journaliste toute votre vie et vous êtes l'auteur d'une vidéo qui fait le tour sur Internet parce que vous avez fait quelque chose qu'on n'a jamais vu. Vous êtes arrivé devant le Parlement européen. Vous devez défendre la politique israélienne. On est accusé de tous les noms, génocide, etc. Et tout d'un coup, je ne sais pas quel nerf vous a pris. Vous dites, mais attendez, moi, je ne suis pas venu ici pour défendre l'État d'Israël. Hein, ne croyez pas ça. Je suis venu pour vous dire à vous que vous devriez avoir honte de nous accuser, nous, l'État juif, nous, les victimes de génocide. Qu'est-ce qui s'est passé? Votre sang a fait qu'un tour? Comment ça se fait que vous avez fait une vidéo incroyable?
Ben, c'était... pas prévu. Je suis venu avec un discours.
Ça se voit.
J'ai travaillé beaucoup mon discours. J'ai travaillé mon discours en Israël. J'ai travaillé mon discours avec mon assistante. On a travaillé, on a traduit, c'était bien écrit. Je l'ai même lu avant. Et j'étais même dans les temps. On nous donne 2-3 minutes. Puis je suis assis, j'étais numéro 18. Numéro 18. Donc j'attends tranquillement, j'écoute. Mais il faut dire la vérité, j'ai pas trop aimé apprécier le rapport déjà de l'Assemblée nationale du Parlement européen dans le sens où je trouvais, même s'il condamnait le Hamas, il y avait quand même certains points, on pourra en parler après, ensuite, que je n'ai pas trop apprécié. Mais encore, bon. Et là, je m'assois et je vois les 17 avant moi, et parmi les 17, plus de la moitié, avaient des discours, mais scandaleux, dans le sens où une même a comparé, pas seulement génocide, Israël fait la Shoah, Holocauste, à Gaza. D'autres, le côté agressif. On parlait que d'agressivité d'Israël, que de l'agressivité. Israël, en fait, c'est le méchant, les Palestiniens, c'est les gentils, les malheureux, les victimes. Et c'était infernal d'écouter ça. Et pourquoi? Parce que juste le matin où je prends l'avion pour Strasbourg, et bien avant d'aller, je suis parti rencontrer une famille d'otages et une otage qui est rentrée en Israël et qui a toujours son fils là-bas. Donc je vais les voir à Niroz, on est avec eux de façon régulière. Donc je vais les voir. Et franchement, je veux dire quelque chose qui m'a beaucoup frappé. C'est la première fois, quand je marchais à Niroz, dans le kibbutz Niroz, entre toutes ces maisons calcinées, j'avais l'impression d'être à Auschwitz, de regarder les blocs. Et ça me rappelait vraiment cette image, là, quand j'étais avec le rabbin Lau, de regarder les blocs comme ça à Auschwitz. Mais là, c'est un kibbutz en Israël. Chaque maison comme ça était un bloc. Pareil. Et je vois la maman qui pleure, qui me tient la main. Et ce même jour, en plus, 24 soldats israéliens tués le jour où on parle au Parlement européen. Et là, tout d'un coup, je me dis, pourquoi ils meurent, ces soldats? Parce que justement, ils se font tuer parce qu'ils se comportent de façon, comment dire, digne d'après la loi internationale, ils rentrent de façon chirurgicale pour ne pas toucher aux civils. Donc on perd des soldats pour ne pas toucher à des civils palestiniens. Et vous arrivez au Parlement européen, et vous voyez des parlementaires dire leur soi-disant des pays comme ça, et Grèce, et j'en passe, il y en avait tellement, et qui tiennent des discours qui me comparent à, si je fais la Shoah, donc qui me comparent, moi, juif, aux nazis, en plus à quelques jours, le 27, où ça sera le jour international de l'Holocauste, et aujourd'hui, au Parlement européen à Strasbourg, aujourd'hui, il y avait la cérémonie. Quelle audace, quel culot, quelle honte. Et c'est pour ça que lorsque j'ai entendu, j'ai dit finalement, je me suis dit un instant, comme on dit, comme le fameux film qui dit au nom du Père, ben je vais aller, pas seulement au nom de nos ancêtres, mais au nom de ces filles violées, au nom de ces bébés déchiquetés, au nom de ces soldats décapités, au nom de ces otages qui sont toujours là, au nom de ces parents qui souffrent le martyr, au nom d'un peuple qui pleure et qui se bat en parallèle, il n'y a pas plus dur que ça, et ben j'ai dit, maintenant c'est pour eux, c'est même pas moi qui parle. Moi je vais dire ce qu'ils ressentent, et c'est ce qui est, c'est ça le discours.
Alors, comment vous avez été reçu? Parce que c'est quand même, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas diplomatique. Hein. Vous venez.
Non.
Et comment pas ça a été reçu? Les gens ont été surpris? Comment? Alors évidemment, moi je vois sur les réseaux sociaux, vous êtes applaudi par tous les juifs du monde, mais comment ça se passe sur place quand tout d'un coup vous vous mettez comme ça à dire, mais vous avez dit des mots très forts. Hein, vous avez dit, je suis venu vous dire que je m'emporte contre vous, que je suis en colère contre vous, que vous devriez avoir honte. Et comment ça a été reçu?
Bien sûr, parce qu'on est dans une institution qui est censée être honorable, Parlement européen, et vous entendez des méchancetés. Par ailleurs, remarque, ceux qui parlent ainsi sont soit des antisémites méchants, soit des ignorants, sinon il n'y a pas d'autre choix. Et c'est pour ça que je leur ai dit qu'ils sont en train de tâcher, c'est en anglais bien sûr, de stain, ils sont en train de tâcher les sièges sur lesquels ils sont assis. Et c'est vrai qu'à la fin, j'ai terminé de façon un peu dure, j'avoue, mais quand j'étais jeune, on est petit, je suppose toi aussi, Bernard, on lit les passages de la Shoah. C'est une époque où l'Europe, déjà, on écoutait l'opéra, la musique classique, on se disait, Et où ils étaient, toutes ces personnes? Où ils étaient? Comment ça se fait qu'ils étaient aussi absents dans ce continent européen? Et j'aurais dit à la fin que quand aujourd'hui, quelques semaines après le 7 octobre, quand je les entends parler ainsi, et bien maintenant je comprends, je vois un petit peu ces mêmes personnes dans les années 40, et je leur ai dit, à ceux qui ont fait ces discours, que heureusement qu'il y a 80 ans, ils n'étaient pas voisins de Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce que je sais très bien quel serait le sort de leurs voisins. Voilà, c'est aussi, c'est, je sais que c'est dur, mais c'est ce que j'ai ressenti, et je leur ai dit, alors, il est vrai qu'à la fin du discours, il y avait aussi Corbyn, l'anglais, il y avait des personnalités qui ont parlé là-bas, horrible. Et qu'en sortant, certains sont venus me voir. Alors beaucoup, hein, beaucoup sont venus me serrer la main et me dire merci. Parce que au contraire, ils étaient avec moi. Et on a des amis en Europe, il faut le dire aussi. Mais il y en a aussi certains qui sont venus me dire oui. Il y a par exemple un parlementaire suisse très poli, hein, qui est venu vers moi. Il m'a répondu en plus aussi, juste après, dans son discours à lui. Il m'a dit, vous savez, on a le droit de critiquer Israël, mais qui comme toi, Bernard, sait qu'au contraire, nous, on est toujours pour, on est une démocratie. Souviens-toi, ce fameux livre qui est sorti en France il y a 20 ans à peu près, peut-on critiquer Israël, si tu te souviens, je suppose. Oui. Mais le problème, c'est qu'on a tellement laissé, on a tellement joué les fair play, les démocrates, on a tellement laissé faire que, bien sûr, critiquez-nous, on est ouvert, etc., etc., qu'à la fin, là, c'était pas nous critiquer. Là, c'était nous insulter. Là, c'était moralement nous toucher. Là, c'était un 7 octobre. Pas avec des fusils, mais avec des mots.
Boaz Bismuth, je voudrais profiter de l'occasion et en faire profiter aux auditeurs de votre présence parmi nous. Vous êtes au téléphone, donc de retour de Strasbourg. Et il se trouve que vous, dans votre cursus, vous êtes un spécialiste de politique internationale. Et je voudrais vous poser la question suivante. Si le plan de paix est accepté tel que le présente le Washington Post, Reuters, avec 40 jours de trêve et le retour de tous les otages, c'est en discussion, hein. Peut-être d'ailleurs que vous en savez beaucoup plus que ce que vous pourrez dire. Mais j'ai même du mal à vous poser la question, parce que tout le monde veut le retour des otages, et tout le monde se dit, là est ma question, si vous arrêtez la guerre 40 jours, bah, vous la ferez reprendre à personne. Personne ne retournera en guerre dans 40 jours. C'est un leurre, ça, de dire on arrête, on libère les gens et on y retourne, c'est fini.
Écoutez, regardons un petit peu. Alors, les 100 listes qui sont déjà au Hachem revenus, eh ben, ces 100 listes-là, eh ben, sont la manœuvre militaire, sans nos héros, sans nos soldats, eh ben, jamais ils seraient là parce qu'on connaît un petit peu le cynisme, la méchanceté, la cruauté du Hamas. Et par ailleurs, pour ceux qui ne croient pas, il suffit de regarder en 2014 l'opération Tzouk Eitan, 2014, un cessez-le-feu, Hadar Goldin, officier israélien qui est tué pendant ce cessez-le-feu. Aujourd'hui encore, nous attendons la dépouille, je vous parle de 2014. Donc ça, c'est le Hamas un petit peu. Donc sans la guerre, il n'y aurait jamais eu, ou la manœuvre militaire si vous préférez, il n'y aurait jamais eu le retour des otages. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que vous et moi aujourd'hui, si imaginons, et je dis aussi aux auditeurs, même pour ceux qui nous disent, oui, écoutez, on ne peut pas, finalement, c'est une guerre, on ne peut pas arrêter pour les otages, je dis une chose, nous on est fiers de participer à une nation, à un peuple pour qui la vie est au-dessus de tout. Et on dit très bien, même dans notre religion, que celui qui sauve une vie sauve un monde tout entier. Ça veut dire que il faut les ramener, on a ce devoir moral de les ramener en vie. Sauf que, sans la guerre, ce que Hamas propose, eh ben, c'est finalement qu'on arrête la guerre, qu'on sort de Gaza et nous rend les otages. Faire confiance au Hamas, c'est comme faire confiance au diable. Donc il faut être très attention. Mais moi, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, parce que c'est une négociation, et parce qu'il ne faut surtout pas porter préjudice, et vous savez, vous comprenez mieux que moi, mais je peux vous dire une chose, et ça c'est, je vous dis, et ça, je parle même au nom du Premier ministre israélien, Israël fera tout pour amener les otages, sauf que, il y a aussi une obligation, et Hamas doit l'entendre, le Hamas va être anéanti, le Hamas ne peut pas rester au pouvoir à Gaza, parce que c'est inconcevable, ni en façon militaire, mais c'est terroriste, j'aime pas quand on dit militaire, terroriste, ni dans une façon, ou de façon sournoise, on peut les mettre, finalement, les garder dans le côté administratif, et je crains que certains vont essayer de faire ça. Maintenant, la fin de la guerre, alors la guerre va être longue, ça va être très très long, on est dans un marathon, on parle d'un an, moi je vous dis tout de suite, ça va être plus qu'un an, elle va prendre des formes un peu différentes. L'ennemi, le Hamas, eux aussi, s'ils ont réussi à faire une construction armée dans le nord de Gaza, et bien maintenant ils sont passés au terrorisme pur et dur, c'est-à-dire ils sont un peu dans la stratégie du terroriste qui sort de ses trous en solitaire et qui nous fait et qui essayent de nous faire du mal, parce qu'ils ont été très, très, très énormément touchés dans le Nord. Et nous, de notre côté, je ne vais pas raconter comment, mais aussi, ça va être un prendre une tournure, mais ça va être long. C'est un marathon. Israël va gagner, parce qu'elle n'a pas d'autre choix, hein, et parce que nos soldats sont très, très bons. Donc, on a eu un coup le 7 octobre, mais on s'est rétabli, on s'est redressé. Le problème, c'est que ce n'est pas une guerre contre le Hamas seulement, c'est une guerre contre un axe. Vous voyez très bien les Houthis avec leurs missiles sur Israël, vous voyez très bien le Hezbollah, on ne sait pas si demain, après-demain, une semaine, la guerre va éclater, et vous savez très bien aussi qu'on ne peut pas laisser le Nord de cette façon. C'est pour ça que j'ai dit Judée-Samarie aussi, aller savoir quelle tournure ça va prendre. Donc, on est parti dans un marathon. L'opinion publique israélienne, ou l'Israélien, chapeau, ce fameux peuple qu'on a dit qui était maintenant un peu comme ça, il en avait marre, et ces jeunes qui commandent des sushis et pas des falafels et sont devant leur écran, et bien c'est une génération de héros que nous avons, ces jeunes aujourd'hui, je suis en admiration, nous sommes tous devant l'admiration, la solidarité nationale, n'écoutez pas un petit peu ce que vous voyez dans les plateaux de télévision, c'est pas ce qui se passe dans la rue israélienne, il y a une solidarité, mais il y a aussi une attente, et on connaît le prix qu'il faut payer, il y a une attente de gagner la guerre. Les Israéliens veulent le retour des otages et la victoire. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on est dans l'obligation. Et par ailleurs, ce sont les objectifs, justement, de cette guerre tellement justifiée que nous vivons aujourd'hui. Mais j'avoue, les temps... Moi, j'ai 59 ans. Allez, je dis mon âge, j'ai 59 ans. C'est la période de loin. Et quand je dis 59 ans, première guerre du Liban, deuxième guerre du Liban, les opérations militaires, la guerre de Kippour, où j'avais quoi? J'avais 6 ans, et je voyais comment tous les hommes sortir de la synagogue, les talites, ça, c'est le défi le plus grand que le peuple juif a eu depuis la création de l'État d'Israël.
Pourquoi?
Ouais. Parce que déjà, je vais commencer par le côté d'abord psychologique, parce qu'on n'était plus là. Parce que c'était des choses inconcevables. Parce que pour nous, les Israéliens fiers, en plus de nos victoires, l'idée qu'une entité israélienne soit sous occupation de l'ennemi, même quelques heures, est inconcevable. Et comme c'est peut-être une page... Israël a été créé par ailleurs, bien sûr, le retour à Sion, hein, le retour de sur notre terre. Mais quand même, il y avait aussi cette volonté, cette mission de créer enfin un lieu saint, un lieu sûr. Pour les Juifs, ça veut dire quoi? Plus jamais ça, ni les pogroms de Kishinev, ni la Shoah, bien sûr. Et tout à coup, vous prenez comme ça des livres d'histoire, une page comme ça, vous prenez d'un livre, une page de l'époque de la Shoah, Deuxième Guerre mondiale, une page, et vous la mettez comme ça, vous la collez dans l'État d'Israël. Donc ça, c'est une chose qui est très très difficile d'accepter, très difficile. Et bien sûr, n'oubliez pas aussi que là, on se bat pour notre maison, pour notre survie. C'est aussi, on pensait pas être là. Et quand vous voyez aujourd'hui les victimes, vous savez, moi, j'ai malheureusement, je vous dis, quand vous voyez ces maisons et l'odeur de ces kibboutzim, de ces villes. 10 jours encore après, moi, je suis arrivé la première fois de 3 jours, mais même 10 jours après, quand je retournais presque quotidiennement là-bas, pour voir un petit peu ce qui se passe et pour renforcer, pour accompagner la presse étrangère, expliquer un petit peu au monde ce qui s'est passé, l'odeur de la mort, 10 jours après, les cadavres. Et je peux vous dire que c'est quelque chose qui, c'est un traumatisme, hein, pour la nation. Et de la même façon que la Shoah, parce que j'ai fait cette ressemblance, cette similarité, il fallait quelque chose de très grand, comme la construction de notre État. Un petit peu, c'était un petit peu, allez, je vais employer un mot, c'est pas le mot le plus approprié, mais il fallait quelque chose pour calmer, comme un calmant, si vous voulez. C'est pas un calmant, c'est beaucoup plus grand que ça, l'État d'Israël.
La résilience, aussi, c'est la résilience.
La résilience. La seule chose, après un massacre, c'est une victoire claire, nette et précise. On est dans cette obligation, pas seulement pour l'honneur national, pas seulement pour l'état d'esprit de l'Israélien, pas seulement pour la confiance d'Israël, mais surtout aussi pour tout ce qui est dissuasion. N'oubliez pas que nous sommes dans un quartier très méchant. On a plongé un petit peu dans la paix que vous et moi et les visiteurs, tout le monde veulent. On a parlé bien sûr avec admiration de la paix avec l'Égypte en 1979, avec le Jean Denis en 1994, avec les accords d'Abraham en 2020. On parlait déjà il y a quelques semaines avant le massacre de l'Arabie Saoudite. Le prince héritier saoudien, Mohamed Ben Salman, disait lui-même sur Fox News qu'on se rapproche. On a oublié une chose. Il y avait l'Axumal juste à côté qui attendait. Et là, vous aviez le djihad islamiste, là, vous avez le Hamas, là, vous avez les Houthis, et là, vous avez le Hezbollah, et bien sûr, l'Iran qui mène tous ses pions, qui mène un petit peu sa danse. Et tout à coup, maintenant, c'est eux qui ont pris l'emprise. Mais, je termine là. Un, et ça, quand même, quand on finit cette interview avec les optimistes, Israël n'a pas gagné cette guerre. Et surtout, la perspective d'un autre Moyen-Orient beaucoup plus stable aura place. Et comme vous me dites, et j'ai vu ici au Parlement européen dans ce document final, je n'ai pas apprécié moi, ce document, parce que pour équilibrer un petit peu, il y avait la violence des colons, je n'ai pas vu la violence des colons. Ce que oui, j'ai vu, c'est les attentats de l'autorité palestinienne qu'on soutient. Dans un sondage, l'autorité palestinienne, 73% soutiennent ce qui s'est passé le 7 octobre. Malheureusement, ça, on ne l'a pas dit au Parlement européen, ça, on ne parle pas du tout de ces choses-là. Et donc, on va gagner cette guerre. Et l'idée de deux États, maintenant que certains disent que peut-être ça va être la solution, je rappelle un petit peu, de la même façon que jamais personne pourrait penser à donner un reward, un prix à Al-Qaïda, à Daesh, à Boko Haram. De cette même façon, on ne peut pas parler aujourd'hui de deux États, parce que si vous parlez de ça aujourd'hui, moi je suis de ceux qui s'opposent, vous connaissez, mais en Israël, il y a aussi ceux qui sont pour. Mais parler de ça aujourd'hui, après le 7 octobre, c'est donner un prix au terrorisme. Et ça aussi, c'est inconcevable. Et malheureusement, mes amis européens ici, il fallait aussi leur expliquer qu'ils allaient dans le sens et que parfois, et ça je l'ai dit ce matin au président, ce matin j'étais assis avec le président de l'Assemblée nationale du Parlement européen, du Conseil de l'Europe, pardon, j'étais avec son président, et je lui ai dit ce matin, on peut parfois faire des rapports qui ne sont pas équilibrés, qui sont pas, il ne faut pas chercher de balance. Après le 7 octobre, vous aurez pu très gentiment faire un rapport qui était du côté d'Israël, croyez-moi, ça aurait été pas seulement pour nous, Israéliens, mais même pour l'histoire.
Boaz Bismuth, député israélien, député du Likoud, du parti de Benjamin Netanyahou, je vous remercie d'avoir été l'invité de Radio Shalom. Bonsoir à vous.
Merci à vous, cher Bernard. Merci.